Merci Seigneur, parce que ce soir tu déploies l'étendard de ton amour, Seigneur, sur les frères et sœurs, sur chacun de nous, Seigneur. Merci parce que tu as ouvert les cieux, Seigneur, pour nous ce soir, afin de toucher les cœurs, de toucher les vies, de briser des chaînes et de ramener à la vie ceux qui étaient morts. Seigneur, je proclame, Seigneur, la liberté dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur, ce soir. Merci parce que tu vas nous parler, Seigneur, ce soir. Merci pour ce que tu vas faire au milieu de nous, Père. Nous te bénissons, notre Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Bonsoir à tous. Et bénédiction sur chacun de vous. Rapidement, merci infiniment pour vos prières pour Magda, qui a été très touchée de recevoir vos affections et qui compte énormément. Voilà, donc elle vous le fait savoir. Merci. C'est l'occasion aussi pour... Je voudrais qu'on continue aussi dans la prière par rapport à ceux qui, au milieu de nous, sont dans l'affliction, sont dans la maladie. Je pense à Cassilda. Magda s'est cassé le bras, son opération, c'est mardi. Je voudrais qu'on continue, qu'on ne lâche pas, mais qu'on persévère. Je pense à Tony, ça fait un moment qu'on ne l'a plus vu. Je pense à Hélène qui a perdu son papa récemment. Vraiment, Seigneur, qui est ta grâce, Seigneur, de descendre au milieu de nous, Seigneur. Vraiment, tu viens toucher les cœurs. Je pense aussi à Pierre Bonin. Père, que ta grâce, Seigneur, coule du trône des cieux et descende sur nous. Une huile de joie, une huile de guérison, Seigneur, qui passe dans ces allées, Seigneur, et qui touche les corps meurtris. Merci, Jésus, parce qu'à la croix, tu as tout accompli, Seigneur. Et Seigneur, vraiment, tu fais savoir aux frères et sœurs qui ne sont pas là ce soir, mais qui sont chez eux. Père, tu fais savoir, Seigneur, combien tu les aimes, Seigneur, et combien les frères et sœurs prient pour eux, Père. Merci pour ce que tu déverses au milieu de nous, Jésus. Merci. Amen. Merci pour l'excellente lettre de nouvelles aussi, j'en profite. Ce n'est pas le temps des annonces, mais j'en parle quand même. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette lettre de nouvelles. Donc l'équipe Com, soyez bénis, et tous les participants aussi. Il y a de plus en plus de beaux textes, en fait, je trouve ça vraiment, ça nous ressemble de plus en plus en tout cas. Donc bénédiction à vous l'équipe Com, parce que je sais que vous bossez là-dessus. Il y a vraiment un travail de dingue qui est fait derrière, et on veut vraiment les bénir. Ouais. Amen, merci. Alors, quant à nous, qu'est-ce qu'on va dire ce soir? On ne sait rien, moi. J'ai essayé de préparer quelque chose à la hâte. Pas eu beaucoup de temps cette semaine. Mais bon, le Seigneur va nous faire grâce, non? Voilà, est-ce qu'on peut projeter le passage dont on a parlé, que j'ai donné, s'il vous plaît? Donc c'est dans Matthieu, voilà, parfait, super. Donc merci Alain, parce que tu as dit tout à l'heure, tu as parlé de la confiance en Dieu. C'est ce dont j'aimerais parler ce soir. Matthieu 6, versets 26 à 29 nous dit ceci. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas cependant. Je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Amen. Voilà, mon message est terminé. On peut passer à l'apéro. Non. Ce soir, j'aimerais qu'on reparle. Vous vous souvenez du petit message que j'avais apporté il y a quelques mois et qui parlait d'un petit grain de blé? Alors, petit grain de blé que nous sommes, sommes-nous bien morts? Êtes-vous bien morts, frères et sœurs? Avez-vous bien mouru? Car si vous ne mourrez, vous ne pouvez vivre. C'est ici le paradoxe du royaume de Dieu. C'est vrai, non ? Pour vivre, il faut mourir. J'aime comment le Seigneur nous parle. Et des fois, on est confronté à des situations dans nos vies que nous n'avions pas prévues. Et je voudrais vous raconter un petit témoignage, parce que du coup, je l'ai raconté à mon beau-père tout à l'heure. Oui, il y a mes beaux-parents qui sont de Pologne, qui sont là donc cette semaine. Ils sont restés à la maison avec Magda. Et il a beaucoup ri à ce témoignage que je lui ai donné. Alors, je voulais vous le donner. C'est qu'il y a peu de temps, on était au centre commercial de Confluence avec Magda pour aller se balader. Et je dis à Magda, j'arrive, je dois aller aux toilettes. Alors, je vais aux toilettes à Confluence, et puis je vais aux urinoirs. Donc, hein, les hommes savent, on fait pipi debout, nous. Donc, c'est une grâce que nous avons. Bref. Alors, je vais à l'urinoir, je commence, ma sainte, et puis, juste à côté, c'est-à-dire deux urinoirs plus loin, un potentiellement musulman, je me doute, commence à crier des horreurs sur les juifs, les insultant de tous les noms. Et il vociférait comme ça. Et ça s'arrêtait plus, et ça s'arrêtait plus. C'est-à-dire que moi, j'étais là. Lui, je dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire et tout. Ça m'a coupé la chic. Et lui, il vociférait. Et puis, ça résonnait dans ce grand toilette. Je ne sais pas si vous êtes allé à Confluence, c'est immense. Et il continuait comme ça, à dire des horreurs sur les juifs. Je vous passe les détails et les mots qu'il utilisait. Des trucs horribles. Hein. Il souhaitait la mort des juifs et pire encore. Bref. Et donc voilà qu'il s'arrête, lui, et puis moi j'étais là, je dis qu'est-ce que c'est que ça et tout, Seigneur, garde-moi, et puis il était derrière, je ne l'avais plus dans mon champ de vision, et je dis bon, je vais vite terminer, que je préfère l'avoir en face de moi, celui-ci en fait, c'est pas avec tous ces fous en ce moment, bref, donc je me retourne comme ça, et la prie par je ne sais quel, enfin je sais que le Seigneur m'a poussé vers lui en fait. Et je l'avais en face de moi comme ça. Il hurlait, il continuait à hurler au milieu du truc et tout. Je suis allé le voir, j'ai posé ma main sur lui comme ça. Je lui ai dit, Dieu t'aime. Amen. Et puis je l'ai laissé comme ça. Et puis en fait, j'avais encore envie de faire pipi. Donc je suis allé dans les autres toilettes. J'ai continué comme ça. C'est que lui, il s'est arrêté de crier tout de suite quand j'ai posé ma main sur lui comme ça. Ça a été radical. Et il a été surpris, je pense. Donc moi, je commence à aller là-bas. Puis je me retourne à nouveau, puis lui il était là, il me dit oui, il fait comme ça, il fait oui, vive les chrétiens et les musulmans. Le fait est qu'en fait, ça lui a coupé, lui aussi, la chic, et qu'il est reparti te bredouille comme ça. Et puis ça, là, ça lui a cloué le bec. Voilà. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que parfois on est confronté à des situations, c'était inattendu. Moi, c'est la première fois que je suis confronté de manière directe à quelqu'un qui dit des trucs antisémites, clairement, enfin, je veux dire, qui affiche d'une manière plus que claire son opinion sur nos frères et sœurs juives. Et bref, c'est que le Seigneur nous donne de l'audace. En fait, on a beau être confronté à quelqu'un qui a perdu tous ses repères, le Seigneur nous donne de l'audace. Et je me dis, c'est vrai qu'on... on évolue, nous autres, dans un environnement qui peut nous paraître particulièrement hostile, c'est vrai. Mais si nous sommes là, tu l'as dit Alain tout à l'heure, si nous sommes là pendant cette période, c'est parce que Dieu nous veut là pendant cette période et qu'il nous a donné toutes les capacités et tout le pouvoir nécessaire de survivre dans une période telle que celle-ci et qu'il nous a donné les capacités d'être la lumière du monde dans cette période-là, spécialement celle-ci, même si elle peut nous paraître assez hostile. Parce qu'en vérité, quand on est face à ce genre de situation, je ne sais pas, c'est le Seigneur qui prend le Saint-Esprit, en fait, met un feu en nous, il allume quelque chose qui fait qu'on a de l'audace. Et ce que j'ai vécu ce jour-là, c'était juste magnifique, en fait, au final. J'ose espérer que cette personne a été transpercée par l'amour de Dieu à ce moment-là. Évidemment, je n'ai pas eu le temps d'évangéliser, mais en tout cas, ce qui a été semé. Amen. Alors oui, il y aura des embûches dans notre marche, des complications. Je pense que dans notre vie de chrétien, maintenant, on l'a assez bien compris. On a assez vu certaines choses dans notre vie quotidienne qui ne nous aident pas toujours, mais... Le Seigneur est bon. Proverbe 19, verset 21 nous dit ceci. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et je voudrais prendre l'exemple de Samuel. Et Samuel, il était très proche du roi Saül. Et quand le roi Saül a désobéi aux ordres de l'Éternel, suite à une bataille, tout ça, il n'a pas fait ce que Dieu avait demandé. Saül avait ses propres projets. Il préférait plaire au peuple. D'accord ? Je vous résume. Hein. Donc, ce qui a fortement déplu à Dieu, puisque du coup, Saül a désobéi. Ayant désobéi, Dieu a ôté sa main de sur Saül. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a demandé à Samuel d'aller chercher un nouveau roi. Mais Samuel, il n'entendait pas non plus de cette oreille. Lui, il voulait de mèche avec Saül. Enfin, sur l'instant, il dit à Saül, il dit non, mais c'est fichu en fait. Tu as désobéi à Dieu, il ne veut rien entendre. S'il te plaît, Saül, il essaye. Il essaye quand même malgré tout. Il dit à Samuel, vas-y, intercède en ma faveur. Je veux rester roi et je veux que la main de l'Éternel soit sur moi. C'était trop tard. Samuel a dû entamer un deuil. Dieu, à un moment donné, il dit à Samuel, il dit, c'est bon, t'as fini. Parce que moi, j'ai un autre roi maintenant qui doit remplacer Saül. Donc, Samuel s'exécute. Il dit, ok, Dieu lui dit, tu vas avoir Isaïe. Il a des fils là-bas. Et c'est parmi ses fils que j'ai choisi le nouveau roi. Samuel a peur. Vous avez vu ? Dieu a des projets, il envoie ses serviteurs. Samuel a peur. De quoi ? Du roi Saül. Parce que si le roi Saül apprend que Samuel va chercher un nouveau roi quelque part, donc il est dit, la Bible nous le dit. Donc, Dieu pourvoit à nos peurs. Il dit, dans ce cas, tu vas aller chercher une génisse et tu diras que tu vas là-bas pour faire un sacrifice. Dieu pourvoit. Donc, dans notre marche, c'est pareil, hein. Dieu a des plans pour nous, il nous dit tu vas aller là-bas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'embûches, hein. Il n'y aura pas de complications, il y aura des complications. Mais Dieu va pourvoir. Deuxième chose, il dit ceci, j'aime beaucoup que je ne me trompe pas, il dit, nanana, attendez. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. En fait, Isaïe avait 7 fils plus un. Isaïe avait 8 fils. Seulement, il n'en a fait venir que 7. Samuel arrive, il voit un grand gaillard. Il est grand. Il s'appelle comment ? Il s'appelle... Non, mais parce qu'ils se ressemblent tous, alors moi je ne veux pas te dire de bêtises. Eliab. Il s'appelle Eliab. Samuel, sur l'instant, il croit que c'est lui. Ça y est, j'ai trouvé le roi. Puis Dieu lui dit non. Alors il passe en revue les 7 fils. Vous avez vu comme c'est intéressant ? Dieu n'a pas dit à Samuel, va chercher le nouveau roi David. Il dit, Isaïe, il a des fils. Va et trouve le roi. Moi, j'ai trop aimé. Parce que quand l'Éternel a un projet, il ne dit pas tout. Hein. Il dit maintenant, tu vas avec ta foi et tu marches. Et puis tu verras sur place qui c'est que j'ai choisi. Et vous avez vu comme on peut se tromper ? Samuel s'est trompé. Hein. Il a fait confiance à la chair. Il a dit, ah, c'est lui le roi, parce qu'il est un grand gaillard. Et du coup, ben, il s'est dit, ça ira bien comme roi, ça. Non, parce que l'Éternel regarde au cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Finalement, quand tu fais confiance au Seigneur, au fur et à mesure, tu te dis, ben non, c'est pas lui. Il y a un problème là, du coup, je ne suis pas convaincu. Ça marche par conviction aussi, quand on travaille avec le Saint-Esprit. Donc du coup, il fait venir le dernier fils. Et vous connaissez la suite. Voilà. Donc je voudrais vraiment qu'on soit encouragé par cette petite histoire, parce qu'elle est très pratique dans la vie de tous les jours. Nous avons droit à l'erreur. L'Éternel a des projets qui ne sont pas les nôtres. Et il nous fera savoir dans notre marche, au moment opportun, au moment désiré et souhaité par lui, il te dira, c'est lui. Sors ton huile d'onction, c'est lui que tu vas oindre. On le saura à l'instant T. Et je raconte cette histoire parce qu'elle m'a quand même beaucoup touché par rapport au projet que nous avons en tant que corps d'église. Je me dis, Seigneur, tu vois, j'ai pas toutes les cartes en main, je comprends pas tout. Je comprends la vision. Et là, il me dit, mais je te demande pas de tout comprendre, je te demande de marcher. Pour le reste, tu me fais confiance. Ma lumière est une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier. Je ne te permets pas de voir trop loin. Je veux que tu marches par la foi. Il faut que je me mouche, sinon vous allez m'entendre renifler tout le long. Voilà. Voilà. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. Amen. Mais comment on acquiert cette confiance en Dieu? Comment on acquiert cette confiance en Dieu? C'est par l'expérience, c'est par la marche, par la foi, c'est par les épreuves, par les tribulations. Et là, on va reparler de ce fameux petit grain de blé tombé en terre. Qui sont ceux de nous qui avons accepté de tomber en terre et de mourir? Je vous repose la question. Et pardonnez-moi, il y a peut-être des éléments qui ont été dits déjà la dernière fois, puis qu'on va peut-être reparler encore ce soir. Mais la dernière fois, on s'est surtout intéressé à ce que faisait ce petit grain de blé avant, mais pas une fois qu'il a été jeté en terre. Et on va parler du processus. Que devient le grain de blé qui est tombé en terre? Quand le grain de blé tombe en terre, alors je vous rappelle que il faut vous projeter dans ce petit grain de blé. C'est nous, hein, chacun de nous. Un petit grain de blé unique, une plante unique pour un fruit unique, chacun que nous sommes. Le grain de blé de droite ne peut pas se comparer au grain de blé de gauche. Il y a une enveloppe, l'enveloppe de la graine protège l'embryon qui est à l'intérieur, la vie. Cette enveloppe s'appelle le tégument. Écoutez bien, il agit comme une barrière physique contre les dommages extérieurs tels que les chocs, les infections microbiennes et les prédateurs. Dieu fait bien les choses. Quand nous, petits grains de blé, avons accepté d'être jetés en terre par lui, il va protéger ses enfants. Il va nous protéger des agressions extérieures. Première chose. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce petit grain? Il y a la présence d'une substance appelée l'endosperme. On fait un peu de bio machin là, hein, ce soir. Hein. C'est une réserve naturelle de nutriments. Dieu a pourvu à tout. Même lorsqu'on est sous terre, il a pourvu à une substance surnaturelle qui s'appelle l'endosperme, qui va pourvoir aux nutriments de l'embryon. Nous sommes ces petits grains. Le Saint-Esprit de Dieu, même sous terre, pourvoit à notre croissance. Cette substance va donner au grain la puissance du début de la croissance. Mais attention, la germination, ça ne se fait pas n'importe quand. Tout à l'heure, on a dit, Dieu choisit le moment opportun pour dire c'est maintenant. Si le grain de blé veut faire le coco et en faire qu'à sa tête, il va germer au mauvais moment. S'il germe pendant l'hiver, il mourra. S'il germe trop tard, il pourrira. Il y a le moment de Dieu, le moment que Dieu a choisi pour chacun de nous. Et il va te dire maintenant, tu sors de ta coquille. Pourquoi tu dois sortir ta coquille ? Parce que c'est le temps et que ta croissance en dépend. Dieu a pourvu à ton environnement. Il a pourvu au terreau. Il a pourvu, peu importe l'endroit où tu es né. On a dit tout à l'heure, les circonstances ne sont peut-être pas les meilleures. L'environnement est peut-être hostile, mais nous avons tout reçu pour que nous ayons le pouvoir nécessaire de germer et de grandir. Personne n'a été laissé au hasard. Il s'avère que certaines espèces de végétaux peuvent pousser dans certaines régions et d'autres non. Je disais tout à l'heure, il y a le fait qu'on est chacun unique. Je me répète, cela sous-entend que là où tu es, il t'a été donné le pouvoir de vivre et de survivre en quelques circonstances. Notre pouvoir d'adaptabilité est immense. Il nous vient de Dieu. Maintenant, si Dieu te dit « c'est le temps », qu'est-ce que tu vas faire ? Tu as deux options. Soit tu sors, soit tu restes dedans. Si tu restes à l'intérieur, tu ne vas pas mourir. Tu resteras en état de dormance. Tu ne mourras pas, mais tu dormiras. Si tu dis « je sors », tu rentres dans l'obéissance. Et dans le cas où tu rentres dans l'obéissance, cela va s'appeler l'enracinement. C'est la première étape lorsque le grain de blé rentre dans l'obéissance. L'obéissance, c'est quoi ? C'est la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui va faire l'embryon ? Il va chercher à s'enraciner. C'est la première étape. S'il ne s'enracine pas d'abord, il n'y aura pas de fleurs plus tard. Il va chercher l'enracinement. Est-ce que nous tous ce soir sommes enracinés en Jésus-Christ ? De ton enracinement en Jésus-Christ va dépendre de la beauté de la plante que nous sommes. Cela signifie, alors je me suis noté, la racine précède la pousse. Cela signifie que nous ne pouvons pas espérer la vie si nous ne sommes pas enracinés d'abord en Jésus-Christ. C'est quoi décider ? Si on décide de s'arrêter là, dans le processus, si on décidait de s'enraciner et si on décidait de ne créer que des racines, qu'est-ce qui se passerait ? Et je répète, le petit grain, c'est nous. Si on ne décide de ne faire de nous que des racines, on ne pousse que vers le bas. Qui va-t-on atteindre en poussant vers le bas ? Ça s'appelle le repli sur soi, le renfermement sur soi. S'il n'y a que des racines, je ne me le suis pas noté, mais en bio, ça porte un nom aussi. Il y aura une toute petite tige si frêle qu'elle fanera. Elle ne résistera pas. Parce que Dieu a tellement bien fait les choses que l'équilibre est parfait entre l'enracinement et la plante qui doit germer. Si nous passons notre vie dans la lecture de la parole de Dieu, admettons, dans les louanges qu'on garde pour nous, dans les embrassades qu'on se fait qu'entre nous, on va chercher à s'enraciner toujours plus profondément, mais ce n'est pas l'équilibre souhaité et désiré par Dieu. Nous mourrons entre nous. La plante a besoin d'être exposée à la lumière pour vivre, pour se développer, pour porter du fruit. Quel est le but du grain lorsqu'il est semé? Le but final. Quand on sème quelque chose, c'est la récolte. Le grain mettra toute l'énergie qu'il a à se développer pour porter du fruit. Le grain, la plante par la suite, mettra toute son énergie à se développer et concentrera son énergie pour le fruit. C'est l'ultime but de la graine. C'est l'ultime but de la plante. C'est de porter du fruit. Les amis, notre but, c'est les fruits. Et toute notre énergie doit être mobilisée pour que nous portions du fruit. Amen à ça. On connaît bien ce passage de Matthieu 5, verset 15. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Je le redis, mais toutes les plantes que nous sommes sont différentes. Les différentes variétés de plantes auront, selon leur espèce, on a une botanique ici, selon leur espèce, auront besoin de plus ou moins de lumière, de plus ou moins d'enracinement, de plus ou moins d'eau. Mais figurez-vous que Dieu a tellement bien fait les choses qu'il a permis à des plantes de pousser dans le désert. Comme quoi, l'environnement, ce n'est pas notre problème, puisque c'est Dieu qui crée les circonstances. Nous ne pouvons pas dire que nous avons évolué dans le mauvais environnement. Même si, je le répète, effectivement, il y a beaucoup de circonstances difficiles et atténuantes pour nos vies. Mais Dieu a pourvu. Dieu a pourvu pour chacune des plantes que nous sommes. Quand nous allons croître, il y a des gens, ou peut-être d'autres plantes, on va continuer dans la botanique, il y a d'autres plantes qui vont nous faire de l'ombre. Il y a des plantes qui vont chercher à se substituer à la lumière. Écoutez bien. Il y a, chez nous, frères et sœurs, et ça c'est dangereux, alors que l'esprit parle à vos cœurs, il y a des gens qui vont, que ce soit dans leurs proches ou moins proches, ou cercle élargi, tout ce que vous voulez, qui vont chercher à se substituer à Dieu et qui ne permettront pas que Dieu fasse son œuvre dans la plante qui représente notre prochain. C'est souvent, pardonnez-moi, je ne veux pas mettre de joue, s'il vous plaît, faites grâce. C'est souvent l'erreur que nous pouvons faire en tant que parents avec nos enfants. On se substitue à Dieu parce qu'on pense qu'on sait mieux ce qui est bon pour nos enfants que Dieu lui-même. Et on vient couper la relation qu'ont nos enfants avec Dieu, alors que Dieu a pourvu pour eux déjà. Et vous verrez que quand c'est comme ça, quand ça arrive, ce genre de situation, et là... Je ne porte aucun jugement, mes enfants sont encore petits. Donc, s'il vous plaît, ne me tirez pas des flèches dessus. Mais la plante, en général, a du mal à croître. Et quand elle grandit, elle a encore besoin de beaucoup d'aide extérieure. Et elle ne dépend pas de Dieu seul. Parce que des gens seront venus se substituer à Dieu dans leur vie. Si Dieu n'était pas intervenu dans la situation de Samuel avec David et qu'il avait laissé faire Samuel, ils auraient eu un roi qui s'appelait Eliab. Samuel a cherché à se substituer et il a voulu dire, tiens, c'est toi. Puis non, le plan de Dieu était bien différent. C'était David. Sans l'intervention de Dieu, évidemment, David serait resté au troupeau, dans les champs. On ne l'aurait même pas fait venir, à la limite. Lorsque nous sommes en Dieu, c'est lui qui devient notre environnement. C'est lui qui donne la provision. C'est lui le terreau. Et donc, si nous faisons de Dieu notre environnement, notre terreau, l'influence extérieure diminue. L'influence extérieure, elle régresse et l'influence extérieure finit par disparaître. Quand Dieu a choisi Jean le Baptiste pour le ministère bien spécial qu'il avait, il avait pourvu à l'environnement de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il se satisfaisait du peu. Il avait rien du tout. À la limite, il s'en fichait de ce qu'on pouvait penser de lui. Il allait dans le désert avec une peau de chameau sur le dos et il criait tout seul. Et il prêchait aux sauterelles. Peu importe, Dieu a pourvu à son environnement et les fruits demeurent encore aujourd'hui. Amen. Bien, une fois que l'environnement est maîtrisé, la plante peut enfin pousser. Donc la plante va former la racine principale. Une fois que sa racine principale, bien ancrée au sol, c'est fait, elle va libérer le germe qui va sortir de la, vous avez souvenez le terme de l'enveloppe là, voilà. Bon, vous avez compris. Lorsque les feuilles sortent de la plante, elles captent l'énergie de la lumière et fournit aux racines de la force et des pousses épaisses. Dieu a créé la nature parfaitement. De telle sorte que pour que la plante se développe convenablement, elle a besoin aussi bien des racines qu'elle a besoin de feuilles, de lumière. Parce qu'elle va trouver les nutriments dont elle a besoin dans le sol et par la photosynthèse, l'énergie dont elle a besoin par les feuilles. Et ainsi, la plante pousse convenablement. Et la nourriture proviendra donc de la lumière, mais également des nutriments dans le sol. Nous fonctionnons exactement de la même façon. Il y a un temps, nous autres, pour lever la tête vers les cieux, et il y a un temps, nous autres, pour se mettre à genoux devant Dieu. C'est un équilibre, c'est un exercice quotidien, parce que Dieu, il n'est pas seulement là-haut, il est aussi ici. Si on a la tête seulement dans les nuages, mais jamais les pieds sur terre, si c'est l'inverse, vous comprenez? C'est un équilibre parfait, notre Seigneur. Il l'a voulu pour les plantes, il le veut pour nous aussi. Le but ultime d'une plante, on l'a dit, c'est porter du fruit. Et sans vouloir rajouter une couche, Jésus parle assez sévèrement de celui qui ne portera pas de fruit. Il dit ceci dans Jean 15, verset 2. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Ce soir, j'aimerais que de manière individuelle, on reparte chacun chez soi avec une nouvelle mission. celle de garder à l'esprit et au cœur que notre but, si nous sommes bien ancrés et enracinés dans le Seigneur, c'est bien de porter du fruit. L'énergie, on l'a dit tout à l'heure, de la plante va se concentrer pour ce seul but. Les amis, concentrons-nous sur ce seul but, porter du fruit. Amen. Au passage, il y a un bon fruit que nous sommes tous censés porter. C'est celui qui est digne de la repentance. Puisque c'est ça aussi l'histoire du petit grain de blé. Nous avons bien conscience que si nous sommes morts avec Jésus-Christ et ressuscités avec lui, on l'a dit tout à l'heure, le chemin n'est pas si simple que ça. Mais le Seigneur nous dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Si mon frère, ma sœur, tu chutes, si tu pèches, tu te relèves dans le nom de Jésus-Christ. Mais tu continues ta marche. Amen. Ça va t'arriver encore et encore et encore de pécher contre ton Seigneur. Autant de fois que tu tomberas, autant de fois que tu te relèveras. Amen à ça. Et tu porteras du fruit digne de la repentance. Parce que progressivement, tu vas te détourner. Nous allons nous détourner de nos péchés. Et tout à l'heure, par hasard, je suis tombé sur une vidéo. Cet homme disait qu'ils ont fait une petite recherche scientifique, donc c'est relié à des neurones. Alors bon, voilà, je ne suis pas non plus scientifique, vous voyez, comprenez. Mais c'est très intéressant. Il est dit ceci dans cette étude. Il est dit que si une personne passe au minimum 4 fois par semaine à lire la parole de Dieu, il y a un phénomène qui va se créer dans son corps. Alors, ils ont été capables de mesurer ça, hein, ne me demandez pas comment, mais c'est scientifique. Qu'est-ce qui va se passer dans son corps à cette personne? Elle va naturellement, ils ont même donné des pourcentages, exemple, elle va naturellement se détourner, 57% d'entre eux se détournent naturellement de l'alcoolisme, de l'alcool. 68% d'entre elles, ce sont tous des chrétiens, se détournent naturellement de la pornographie. Il y avait quoi encore? 40% d'entre elles notent un changement de caractère. Il y a plein d'autres. Et en fait, quand on s'enracine, c'est ça aussi, hein, l'enracinement dans la parole de Dieu porte du fruit. Moi, j'aime trop quand les trucs, quand c'est pratique comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un qui vient nous dire, un scientifique qui dit ça a été prouvé physiquement, que si tu t'enracines dans la parole de Dieu, ta vie va changer. Écoutez, c'est moi qui dis ça. Je vais vous dire un truc. Pendant des années, je me suis dit, moi, j'aime pas lire. Donc, je lisais très peu la Bible. Mais ça m'allait bien. Ça m'allait bien. Jusqu'à ce que je découvre, effectivement, qu'en lisant la Bible, eh bien, c'est ce qu'il nous est demandé aussi, sonder les Écritures. Quand on lit sa parole, on se plonge dans la parole de Dieu et on apprend à connaître Dieu et naturellement, on se détourne du reste. Naturellement, nos inquiétudes s'en vont. Vous voyez, il y a comme une protection, une bulle de protection, puisque nous travaillons à notre intimité avec Dieu, parce qu'on s'intéresse à lui par sa parole. Malheureusement, ce n'est pas non plus une généralité, puisque dans tous les pourcentages que j'ai cités, il reste les 60% ici, les 30% là, donc ne faisons pas non plus de ça une généralité, mais comprenons tous qu'il nous faut nous enraciner dans la parole de Dieu aussi. La parole nous encourage à nous examiner. Alors ce soir, on peut se poser la question, et moi, où est-ce que j'en suis? 2 Corinthiens 13, verset 5 nous dit ceci, et j'ai choisi volontairement une version parole de vie, je crois que c'est la plus français courant, quelque chose comme ça, mais genre d'aujourd'hui. Alors elle dit ceci, interrogez-vous, voyez vous-même si vous êtes des croyants. Examinez-vous. Jésus-Christ est en vous, n'est-ce pas? Ou alors, vous n'avez aucune preuve de votre foi? J'aime bien la version, c'est du français d'aujourd'hui. Je trouve que c'est assez cash, en fait. Mais ça parle. Tu choisis une autre version, ça dit la chose tout à fait autrement. C'est pas aussi... Je vous la refais. Interrogez-vous, voyez-vous même si vous êtes croyant. Hein? Hein? Non, ça c'est accusateur. Matthieu 3, verset 8. Produisez donc du fruit de la repentance. On a déjà dit. En effet, le chrétien porte du fruit lorsqu'il se distingue par le fait qu'il ne pêche plus. Ah bon? On pêche plus? Si, on pêche encore. Mais j'ai envie de vous encourager, j'ai déjà dit tout à l'heure. Mais si tu as pêché, mon frère, ma sœur, maintenant tu te relèves et tu vas de l'avant pour atteindre le but que le Seigneur t'a donné. Porte ton fruit. J'ai envie de te dire, mon frère, ma sœur, porte ton fruit. Libère le fruit qui est en toi parce qu'il est unique et parce que nous autres en avons besoin. Tu ne comprends pas que ce n'est pas quelque chose qui te concerne seulement toi, en fait. Tu ne comprends pas que si tu ne libères pas le fruit qui est en toi, les gens qui t'entourent peuvent, eux, mourir. Nous ne comprenons pas que le fruit que nous portons n'est pas pour nous-mêmes. C'est ça, ce soir, j'ai envie qu'on reparte avec ça. Qu'on garde à l'esprit, en fait, tous les jours de notre vie, qu'il nous faut nous enraciner dans la parole de Dieu et qu'il faut qu'on laisse sa lumière luire sur nous pour porter du fruit. Et si tu ne le fais pas pour toi, alors fais-le pour les autres. Bien, ce n'est pas tout. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour celui qui porte du fruit ? Est-ce la finalité de la plante? Qu'est-ce qu'elle va faire la plante? Quand elle a porté son fruit, elle va penser à la transmission. Elle va penser à se reproduire. Waouh! Waouh! Comme le Seigneur a bien fait les choses. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Reproduisez-vous. Garde ton fruit pour toi, il va pourrir. Moi, je veux au milieu de nous qu'il y ait des bons fruits pour qu'on se nourrisse les uns les autres et qu'on se reproduise. Amen. Ce qui est valable, et je finis là, ce qui est valable pour nous individuellement est valable pour ce corps d'église qu'est le tabernacle. Le corps d'église qu'est le tabernacle est une grosse graine. C'est une grosse graine qui renferme la vie. Et je me suis... En fait, c'est pour ça aussi, Alain, que je t'ai demandé les différentes prophéties qui ont été données sur l'Église ces dernières années, tout ça. Bon, mais je ne vais pas en parler. Ce que je veux dire, c'est que quand on refait l'histoire de notre assemblée, nous savons que c'est le fruit d'une division. D'accord ? Lorsqu'il y a eu cette division, malgré tout, parce que Dieu, dans son immense bonté, son immense miséricorde, a libéré un grain nouveau qui est devenu l'église du tabernacle. Ça, c'est mon interprétation. C'est, d'accord ? Je refais l'histoire en essayant de respecter la vraie quand même. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le tabernacle s'est appelé le tabernacle. C'est un grain qui porte son nom et qui a bougé d'abord dans un garage et puis ensuite dans un autre local qui s'appelait Parole de Vie. D'accord. Et au fur et à mesure que ce tabernacle bougeait, que ce petit grain bougeait et qu'il avait du mal à s'enraciner, probablement, voyez, il a perdu beaucoup au passage. Voyez, je crois qu'après la séparation, peut-être on était 250. Voyez, aujourd'hui, nous sommes 50 ou 60. Quoi ? Ça vous dérange de parler de ça ? Non ? Parce que Dieu aime la transparence. Dieu aime ce petit grain qu'il a semé et dont nous sommes les garants. Ce que nous sommes ce soir, c'est un reste que le Seigneur a gardé pour apporter la vie à ce grain de blé qu'est le tabernacle. Voyez ce petit reste qui est fidèle ici. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le tabernacle s'est trouvé un foyer au 73 avenue Franklin Roosevelt. Il a acheté son local, il s'est posé. Maintenant, le Seigneur dit, vous vous êtes enraciné. Maintenant, le Seigneur dit, il faut germer, il faut pousser. Il faut que cette plante que nous sommes sorte de terre et que cette vision du phare, avec tous ces petits cœurs qui partent dans la ville, soit effective. Il faut que le tabernacle se reproduise. Il faut que nous nous reproduisions. Pour ceci, nous devons sortir de terre. Si la plante ne sort pas de terre, le phare ne sera jamais visible. Amen pour ça. Alors, j'ai fini. Est-ce que vous êtes de ces grains de blé qui veulent porter du fruit ? Est-ce qu'on veut que l'église du tabernacle porte du fruit pour la ville, pour nourrir la ville ? Nous ne savons pas encore comment nous allons la nourrir, cette ville. Puisque d'abord, il nous faut respecter les étapes, n'est-ce pas ? Il faut bien qu'on sorte de terre, il faut bien qu'on devienne visible sur l'extérieur. Ensuite, Dieu dira, maintenant c'est le temps et ton fruit va donner beaucoup de reproduction. Amen. Soyez bénis les amis et je prie vraiment Saint-Esprit que tu puisses maintenant déverser ton amour dans le cœur de chacun ce soir, Père. Seigneur, j'ai soif de me nourrir du fruit de mon frère, de ma sœur. J'ai besoin du fruit de mon frère et de ma sœur. Père, vraiment, tu viens convaincre, Seigneur, ce soir. Père, je sais qu'il y a des bons fruits au milieu de nous, Seigneur, et que nous voyons déjà l'accomplissement de plein de merveilles, Seigneur, que tu vas faire au milieu de nous, Seigneur. Mais nous voulons aller plus loin, Seigneur. Nous voulons aller plus loin dans notre relation avec toi, Seigneur. Merci parce que tu vas pourvoir, Seigneur. Tu vas pourvoir à l'environnement, Seigneur, qui est hostile et qui fait peur, Seigneur. Toi, tu vas pouvoir, par ta grâce, par ta miséricorde, nous allons voir des miracles, Seigneur, se manifester. Nous allons voir des miracles se manifester dans la ville, parce que, Seigneur, tes enfants vont rentrer dans l'obéissance. Et quand on va rentrer dans l'obéissance, on va donner du fruit tel que nous n'en avons encore jamais vu. Et Seigneur, j'ai hâte, nous avons hâte, nous soupirons, Seigneur, après ça, Père. Et vraiment que ta grâce, que ton onction soit toute particulière sur cette assemblée et sur la vie de chacun de mes frères et mes sœurs. Souvenez-nous, souvenons-nous les amis. Si tu es là où tu es, le Seigneur a pourvu à ton environnement. Si tu en es là où tu en es, le Seigneur a pourvu à ton environnement. Cesse de dire que c'est trop difficile, que c'est trop hostile, parce que le Seigneur a pourvu. Tu es une plante capable de pousser dans l'hostilité. Parce que le pouvoir, Dieu te l'a donné. Parce que l'embryon, il est en toi. C'est la vie en Christ Jésus. Soyez enracinés, soyons enracinés dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis, les amis.